Soyez dans la paix du Seigneur et recevez sa grâce ce matin. Je vous invite à la prière. L'éternel Dieu notre Père, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi dont le trône tient sur la justice et la miséricorde, toi qui parles et les choses apparaissent, toi qui renvoies à l'inexistence de notre vie ce qui n'est pas de toi, tu as bien voulu nous donner ton Fils Jésus, lequel nous a apporté la vie, mais la vie éternelle. Accorde-nous ce matin avec joie de recevoir ton message et de nous rappeler de l'œuvre sacrificatoire que Christ a accomplie pour le salut de nos âmes et pour le renouveler de l'univers que tu as créé. Nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Raymond, qui est Raymond? Raymond est un de mes étudiants quand on était à Mayotte, l'école de disciples, qui était enseignant dans l'éducation nationale et qui se retrouve au Bénin, qui m'a dit, « Pasteur, je ne comprends pas, je fais des recherches. » J'ai retrouvé que Pâques s'écrit parfois sans S et parfois avec S. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me suis déjà posé la question moi-même. Mais je lui ai dit que ce que je vais te dire ne va pas t'avancer. Mais ce que je sais, c'est que Pâques sans S correspond à la Pâque juive, qui fait allusion à l'agneau pascal. Et Pâques avec S, c'est la Pâque chrétienne, dont Jésus est l'élément du sacrifice. Si ça peut avancer, ce serait une bonne chose. Mais il ne m'a pas répondu. Mais je crois que ça va répondre à la question de beaucoup de personnes au milieu de vous. Christ, notre Pâque, est immolé. Soyons dans la gloire et glorifions-le. Partout ce matin, je crois qu'on parlera de la résurrection de Jésus, ce qui n'est pas faux. À force d'avoir entendu plusieurs fois, on peut être facilement blasé. Et certaines vérités de la parole de Dieu risquent de passer sous voile. C'est un sujet très controversé que je veux partager avec vous. Mais rassurez-vous, l'Esprit du Seigneur nous conduit dans la vérité par les temps qui courent. Vous allez recevoir, les zones d'ombre vont être éclairées, votre foi chrétienne va gagner en densité parce qu'elle ne serait pas basée sur la tradition des hommes, ni sur des spéculations, mais elle sera basée sur la parole de Dieu. Alors lisons la parole du Seigneur. Alors c'est tout petit, mais je le lirai quand même pour vous. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, Jésus, il a amené captive la captivité. Retenez ce mot. Et il a donné des dons aux hommes. Or, qu'il soit monté, qu'est-ce que c'est? Sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre. Retenez. Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Le point B. Car, comme Jonas fut dans le ventre du cétacé, du poisson, 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dernière lecture. Car il vaut mieux, si la volonté de Dieu le voulait, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit, notez, par lequel aussi étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre, à savoir 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé entre la mort de Jésus le vendredi saint et sa résurrection le dimanche que nous célébrons aujourd'hui? La Bible n'en parle pas beaucoup parce qu'il connaît notre tendance à l'occultisme, à l'adoration des morts. Mais il nous donne des éléments suffisants pour que nous comprenions ce qui s'est passé. Rappelons ce qui s'est passé le vendredi. Jésus a été porté à la croix. Et quand il rendait son dernier souffle à son Père, il n'a pas été tué. Jésus a rendu son souffle à son Père. 5 manifestations surnaturelles ont eu lieu. La première, c'est l'éclipse que nous trouvons dans Matthieu chapitre 27, verset 45. À midi. Vers midi, tout à coup, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et cela dura 3 heures de l'après-midi. Alors vous voyez, le chiffre 3 apparaît tout le temps. L'obscurité qui couvrait toute la Judée était telle que, se croyant être en pleine nuit, les gens se munissaient de lampes pour se déplacer. Et cela confirme la prophétie de Amos, chapitre 8, verset 9. Je cite. « Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil en plein midi et que j'amènerai les ténèbres sur la terre en plein jour. » Cette obscurité nous rappelle-t-elle quelque chose? Et nous rappelle l'Égypte. Dans Exode chapitre 10, verset 22, Dieu, Moïse, étendit sa main vers le ciel et il fut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Obscurité. L'obscurité souvent est associée au monde du diable. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre que l'obscurité n'est pas que associée au diable. C'est des images, c'est des symboliques. L'obscurité, dans ce contexte précis, exprime la colère de Dieu. La colère de Dieu. Deuxième événement. Au verset 51, l'épais rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, un rideau de 15 cm d'épaisseur et 4 mètres de hauteur. Et le voile du temple se déchira par le milieu. C'est-à-dire que la barrière qui séparait la présence de Dieu de l'humanité a été renversée, ouvrant désormais l'accès au Père. Car le vol du temple était un rappel constant que le péché sépare l'humanité de la présence de Dieu depuis le jardin. Et quand Jésus est mort, ce voile, sous l'effet d'un vent très puissant, s'est déchiré du haut en bas. Normalement, lorsque vous voyez un rideau de 4 mètres de hauteur être déchiré, on devait commencer par le déchirer de bas en haut. Parce que l'homme est en bas. Mais ce rideau est déchiré du haut en bas. C'est pour montrer que c'est la main de Dieu qui intervient. Ouvrons définitivement l'accès à Dieu. Alors le voile symbolise quoi? Il symbolise le Christ lui-même. Par sa chair déchirée, il va amener le repentant en réconciliation avec le Père. Le troisième signe dont on va étudier l'onde de choc, c'est le tremblement de terre. Jésus poussa de nouveau un grand cri. La terre trembla et les rochers se fendirent. Ce séisme de la croûte terrestre a des répercussions sur les structures du monde spirituel. Et ce serait le début d'un voyage extraordinaire que Jésus va engager en esprit vers le monde des morts, tandis que son corps physique gisait dans le tombeau. L'autre signe, c'est l'ouverture des tombes et la résurrection des saints. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints étaient ressuscités. Ils sortirent de tombeaux après la résurrection de Jésus et ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes le virent. Le cinquième signe, ou la cinquième manifestation, qui n'est pas la moins importante, c'est la confession du centenier. Un homme qui est habitué à voir des hommes être écrasés comme une mouche, il a assisté à des exécutions par crucifixion des milliers et des milliers de fois, que même ses sens humains ont été blasés. Quand il voit quelqu'un souffrir, ça ne le fait pas de peine. Mais là, la mort d'un homme comme Jésus, suivi des événements bouleversants qu'il vient de constater, et surtout, cette prière en faveur de ses propres bourreaux, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ces différents éléments sont de nature à arracher à ce vieux militaire, soldat, sa confession. Certainement, celui-ci est le Fils de Dieu. Voilà les événements qui se sont produits le vendredi saint. Jésus étant mort, on a amené son corps dans le tombeau, physiquement. Mais à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans le texte des visions que nous venons de lire, Paul parle de la nécessité d'une descente du Christ dans les régions inférieures de la terre, avant que son ascension puisse avoir lieu. D'abord descendre et ensuite monter. Quand on descend, on touche le fond de la piscine, on ne peut plus descendre davantage, on ne peut que par un coup de jarret remonter. Et c'est ce qui se passe. Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Est-ce que cela est possible? Oui, puisque la Bible le dit. Dans Psaume chapitre 139, verset 7, il est dit « Où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au Sheol, c'est-à-dire dans le séjour des morts, tu y voilà. » Là, ça pose le problème de l'omniprésence de Dieu. Certains pensent qu'en enfer, Dieu ne peut pas y aller. L'enfer n'est pas fait pour Dieu. Mais si Dieu ne va pas en enfer, serait-il omniprésent? Vous allez voir pourquoi il est allé en enfer. Nous sommes en face de la notion d'omniprésence qui fait beaucoup de débats. Et les gens n'osent pas aller sur ce texte parce que c'est controversé. Mais vous allez voir qu'on va avoir la lumière de Jésus. Et nous allons repartir d'ici avec une certitude. Et nous savons à quoi nous croyons. Mais quelles sont les vérités cachées derrière cette incursion de Jésus dans le monde des morts? L'esprit vivifié de Jésus s'en alla explorer des territoires spirituels encore inconnus. Ces territoires doivent lui être soumis par la victoire qu'il vient de conquérir sur la croix. Victoire qui ouvre une ère d'une aube nouvelle à une nouvelle humanité sous le règne de Jésus le Christ. Si nous partons de cette vérité, nous pouvons affirmer que les trois jours de Jésus dans le séjour des morts n'étaient pas une période de pause, mais une période d'intense bataille spirituelle qui bouillonne dans le ventre de la terre entre les forces opposées. pour comprendre profondément tout ce que Jésus accomplit pour nous et qui donnerait davantage du contenu à notre foi, nous devrions savoir au moins les grandes vérités sur ce qui s'est produit dans le monde des morts entre le moment où Jésus rendit au Père son esprit et le dimanche qui sonne la résurrection. Que s'est-il passé réellement au Sheol ? C'est un mot hébreu dont on retrouve la version en grec, le Hadès, ou en français, enfer, ou le séjour des morts. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Nous sommes dans le domaine de l'esprit, là. Le corps de Jésus gît dans le tombeau. Peut-être il est en train de se refroidir. Mais au dehors du regard humain, qu'est-ce qui se passe ? La Bible ne donne pas beaucoup de détails, mais nous en avons à notre disposition quelques indices significatifs et suffisants. Lisons un passage de la bouche de Jésus lui-même, dans la parabole du riche et du pauvre. Il y avait un homme riche, on ne connaît pas son nom, qui était vêtu de pourpre et du fin lin, et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare. Lazare, c'est dire que Dieu aide, Dieu qui vient au secours, celui qui s'appuie sur Dieu. C'est l'image du chrétien par rapport au riche qui s'appuie que sur ses richesses. On voit déjà la différence. Quelqu'un qui est dépendant de Dieu et un autre qui ne l'est pas. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges où ? Dans le sein d'Abraham, pas le ciel. Par confusion, nous disons que ceux qui meurent avant, ils partent directement au ciel. Non, en ce moment-là, de la loi, Jésus n'est pas encore ressuscité. Tous les justes allaient dans le sein d'Abraham. Parce que le père de la foi, c'est qui ? C'est Abraham. Et ceux qui avaient la foi et qui attendaient la promesse et qui n'ont pas vu et qui mouraient avant, voudrez-vous qu'il aille où ? Il aille au séjour des morts, mais là, dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, la Bible le dit, et il fut enseveli. Il fut porté par les anges dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Non, le riche mourut aussi, excusez-moi, il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, l'autre était dans le sein d'Abraham, l'autre était dans le séjour des morts, mais des tourments. Donc, dans le même espace, subdivisé en deux, vous avez le sein d'Abraham et vous avez le lieu de tourment. Ce lieu spirituel est aussi mystérieux que réel. C'est le Sheol que Jésus vient de mentionner. Il fait partie de la structure spirituelle de l'univers qui appartient à une réalité parallèle à la nôtre, mais invisible aux yeux humains. Nous avons parlé des royaumes. Nous avons parlé des mondes spirituels, n'est-ce pas ? Et à l'éclairage de ce texte que nous avons prêché avec vous, vous pouvez comprendre facilement qu'il existe un monde spirituel parallèle dans lequel beaucoup de choses se passent. Alors ce monde, Sheol, est subdivisé en deux. Une partie porte le sein d'Abraham, et l'autre porte le nom du lieu de tourment, le lieu des damnés. C'est dans le sein d'Abraham que se retrouvent rassemblées les âmes des justes, morts avant l'œuvre décisive de la croix. Ce n'est pas encore le ciel, mais un lieu de repos des justes qui attendent l'accomplissement de la promesse. On y trouve Abel, Abraham, Enoch, Josué, Noé, David, Moïse, Samuel, Rahab, Ruth, Naomi et que je sais encore, les prophètes et tous les héros de la foi cités dans Hébreux chapitre 11. En revanche, dans l'autre partie du Hadès, se trouvent les âmes des damnés, des impies. Pour ces âmes, c'est le lieu de tourment avant le jugement final. Il y a un abîme infranchissable entre les deux, le sein d'Abraham et le lieu de tourment. Il est bien décrit par Jésus. confirmant qu'il existait bel et bien une séparation définitive entre le destin des justes et celui des impies, même avant la croix. Et vous voyez avec moi qu'il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de zone grise là. Quand on nous parle de purgatoire, on nous projette parfois dans l'adoration des saints, des morts. Et c'est interdit par la parole de Dieu. Pourquoi ce message n'a pas été prêché aussi longtemps que possible pour que le peuple de Dieu en soit délivré? Mais vous l'avez écouté ce matin. Dans le monde physique, après tous ces bouleversements surnaturels, temporels, provoqués par le souffle de Jésus mourant, c'est le calme du deuil. C'est les sanglots. Des sanglots d'immense tristesse, des sanglots de déception. C'est le silence du jardin. Le jardin dans lequel se trouve le tombeau de Jésus. Le Shabbat vient de commencer. Pas de cris d'oiseaux, pas de hurlements de chiens. Le calme est là. Mais dans le monde des morts, c'est le branle-bas, c'est l'ébullition. Car les structures spirituelles des régions inférieures de la terre sont ébranlées par l'entrée de Jésus, la lumière. Jésus, un esprit, y a fait incursion pour affronter la mort, pour le dernier face-à-face. C'est pourquoi parfois, nous lisons un texte dans le livre des Psaumes 24, mais parfois à tort. Mais dans ce contexte précis, il prend tout son écho. Je le cite. « Relevez vos linteaux, les portes éternelles. » Haussez-vous pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel est vaillant dans les combats. Relevez vos linteaux, relevez vos frontons, ô porte. Haussez-vous, ô porte éternelle, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi de gloire. Voyez-vous? Ainsi, on voit que dans les trois jours, que ces trois jours dans le ventre de la mort étaient les trois jours de conquête stratégique. Exactement comme les trois jours que Jésus a rappelés où Jonas s'est réfugié. Ces trois jours sont des trois jours stratégiques, révélant la victoire définitive et irrémédiable de la vie sur la mort. Et c'est en conquérant que Jésus y fit son entrée majestueuse. Jésus fit son entrée dans le sein d'Abraham en conquérant. Pas au petit agneau qui admet de le souffler. Il n'y est pas allé pour dialoguer. Le temps de dialogue est révolu. En libérateur, il y est allé pour faire quoi? Pour extraire ceux qui lui appartiennent. Et pour les amener cette fois-ci au ciel. C'est après la résurrection que le ciel a été ouvert. Tu es monté en haut. Tu as amené captives les captivités. Ah! Ça appelle une explication. Parce que ceux qui étaient dans les seins d'Abraham, ils n'avaient pas d'autre choix que d'y rester là, dans la patience de ce glorieux jour promis depuis longtemps. De leur vivant, ils ont vu par la foi, mais ils n'y ont pas eu l'occasion de le vivre, cette promesse. Ils étaient là en attendant. Et de l'autre côté, les tourments, les gens crient. Parce que le riche, il crie. C'est les paraboles que Jésus a apprises, mais les faits sont réels sur le plan spirituel. Ces gens attendaient la venue de Jésus. Ils étaient comme en captivité. Et Jésus les a sortis de là pour la libération. Les hommes des justes, qui étaient comme en prison, entendaient la lumière. Pour eux, c'est une espérance. Mais pour les impies, qui sont déjà dans le tourment, Jésus n'était pas allé pour évangéliser. Le terme parfois dans la Bible utilisé, le terme italien évangéliser les esprits, ça a donné lieu à une doctrine que si vous priez pour les morts seront sauvés. Quand vous ne raconterez pas Jésus de votre vivant, il s'est fini. Le terme n'est pas évangéliser. Évangéliser, c'est annoncer la bonne parole, n'est-ce pas? Mais la bonne parole que Jésus est allé annoncer dans le séjour des morts, elle était pour qui? C'était pour les justes. C'était pour ceux qui attendaient. Mais cette parole pour les justes n'était pas la bonne parole pour ceux qui sont dans le tourment. Pour eux, c'est une parole de condamnation. C'est pourquoi le terme évangéliser n'est pas le mot approprié. Le terme qui doit être employé, c'est le terme promulguer, proclamer. Jésus a proclamé la délivrance à ceux qui lui appartiennent et il a proclamé la condamnation à ceux qui ne lui appartiennent pas. Il n'était pas allé pour négocier. Il n'est pas allé pour annoncer l'évangile. Croyant en Jésus, vous serez sauvés. Non, ce temps est terminé. Nous sommes dans le temps de règlement. Alors je termine. Quelle est la marque de la victoire finale sur les œuvres de la chair de Jésus? La présence conquérante de Jésus dans les profondeurs de la terre était pour marquer et sceller sa victoire définitive sur la mort et les séjours des morts. On a peur de la mort parce qu'il nous fait peur. Jésus est allé pour proclamer. Et proclamer fait référence à un acte officiel, celui d'annoncer aux esprits qui sont dans les couloirs des régions inférieures la victoire finale du Fils de Dieu, qui vient d'être fait Seigneur de l'univers, celui devant qui tout genou fléchit, celui dont Dieu a fait des ennemis son marchepied. C'est une proclamation d'autorité et non une annonce de l'Évangile comme aux vivants. Mais on se demande, qu'est-ce qui pourrait sortir de la bouche de Jésus au cours de cette incursion spirituelle? Jésus est entré pour proclamer un décret de conquête à ceux qui se sont élevés contre son autorité, ceux qui se sont rebellés contre l'autorité de Dieu, refusant de se soumettre à sa suprématie. Ce faisant, Jésus en esprit certifie le dénouement d'une guerre ancienne qui a commencé depuis la fondation du monde. Jésus va proclamer que la croix a triomphé, que le plan du salut qui avait été saboté par le diable vient de s'accomplir, que le Messie promis, né d'une femme qui, à tort, menée à la croix, vient d'écraser définitivement la tête du serpent. Que les puissances des ténèbres qui pensaient avoir détourné, perverti tout ce que Dieu a accompli sont vaincues et les choses de Dieu sont restaurées. Que l'autorité volée a été récupérée. Que l'aiguillon de la mort, lui, est désormais ôté. Mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ton pouvoir? Que les pouvoirs cosmiques a changé des mains et que le pouvoir et l'autorité qui avaient été ravis par ruse en Éden sont revenus à la maison. Le pouvoir de Dieu est revenu à la maison. Ce qui est en ce moment précis pour les habitants de la terre, un vendredi de deuil, était dans le monde des morts un face-à-face implacable, un bouleversement sans nom parmi les morts. Jésus s'est emparé des clés du paradis et des séjours des morts. Il a ainsi ouvert la porte du paradis aux justes de la foi qui attendaient avec patience la consolation du divin vainqueur. Et en même temps, Jésus a scellé la fermeture des prisons spirituelles aux esprits
aux anges déchus, aux âmes rebelles qui refusaient et qui s'opposaient à son autorité, qui se moquaient de lui, qui l'ont méprisé en attendant leur jugement final. Jésus est allé pour annoncer avec éclat aux siens la rédemption. Il leur dit que la rédemption est venue. Votre jour de salut est venu. Mais à cela, vous, vous n'en ferez pas partie. Et il dira, je suis le premier et le dernier, dit Jésus. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés, c'est-à-dire le pouvoir et l'autorité sur la mort et sur le séjour des morts. Le dimanche matin, la boucle est bouclée. Jésus s'est élevé dans la gloire. La mort ne peut pas le retenir. La vie s'est imposée. La lumière s'est imposée. Dieu l'a fait ainsi pour que dans les cieux et sur la terre, que tous genoux fléchissent devant Jésus et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà notre destin. N'est-il pas joyeux? Avec une telle promesse, est-ce qu'il y a une raison de traîner? Avec une telle promesse, pourquoi ne nous investissons pas à fond dans les choses de Dieu? Mes bien-aimés, un ange ne viendra jamais vous annoncer cette parole. S'il débarque ici avec ses ailes, vous allez tous fuir. Mais Dieu choisit un moyen pour que ce message soit accessible. Je peux vous avouer que c'est la première fois que je prêche ce message, parce que c'est la façon dont je l'ai reçu. Je me dis qu'il y a urgence. Recevez cette parole. Il y a des copies qui ont été faites. Relisez-le. Mot par mot, ligne par ligne, priez, réécoutez-le comme il faut et réajustez-vous. Parce que le printemps, le jour de la résurrection de Jésus, dans la culture hébraïque, c'est le matin. Le matin, généralement, c'est l'aube où le soleil se lève pour la journée. Mais le matin, sur le plan biblique, c'est le commencement de quelque chose de bien. Prenons la décision désormais d'être attachés à Dieu et de marcher dans ses voies.